Vous êtes à l'écoute de France Culture, il est midi. Nous retrouvons tout de suite Olivia Gesbert.
Oui, pour la grande table, dans 3 minutes, tout de suite, on fait d'abord un point sur l'information. Merci Anne. Avec Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La guerre en Syrie est au-delà de toute ligne rouge des hélicoptères de l'armée syrienne qui larguent des barils d'explosifs contenant du chlore sur un quartier à l'est d'Alep, contrôlé par l'opposition. Des dizaines de personnes auraient été intoxiquées, récit tout à l'heure avec Eric Biegala. Le pèlerinage de la Mecque, enjeu de l'antagonisme irano-saoudien. La famille royale saoudienne ne mérite pas de gérer les lieux saints, affirme ce matin le président iranien. Et peu avant, le grand moufti d'Arabie Saoudite a assuré que les dirigeants iraniens n'étaient pas des musulmans mais des disciples d'un mage, en référence au zoroastrisme. Analyse de cette tension avec Nabila Hamel tout à l'heure. Les deux derniers mois de campagne maintenant aux États-Unis, les derniers sondages donnent Clinton et Trump au coude à coude et le républicain dépasse même la démocrate de 2 points dans la dernière enquête ce matin réalisée par CNN, précision de Bruno Cadenne. Et puis on sera aussi en ligne avec notre consultant, l'historien François Durpère. En Russie, le centre de sondage Levada, c'est le seul institut d'études sociologiques indépendant, contraint de suspendre ses activités ce matin. Il a été enregistré en tant qu'agent de l'étranger par la justice. Et c'est Marc Crépin qui nous en parlera. Compte rendu d'audience aussi au procès Cahuzac avec Florence Turme, l'invité de l'abécédaire de la campagne à la lettre M comme moralité en politique. On recevra Michel Rivasi, député écologiste, candidate aux primaires donc de son parti pour la présidentielle. Voilà pour les titres, c'est à vous Olivia Gesbert, la grande table commence.
Merci beaucoup Antoine Mercier, on vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour le journal complet de la rédaction. Bonjour à tous. La Grande Table est un service tout sauf tiède ce midi avec une grande voix de la littérature israélienne et un économiste pressé et très remonté surtout contre le déni de ses confrères. Dans la deuxième partie de la Grande Table, en effet, l'économiste Pierre Cahuc viendra nous expliquer sa démarche, le négationnisme économique et comment s'en débarrasser. Un essai qui vient de paraître chez Flammarion et qui paraît même aujourd'hui. Il fait déjà polémique. Il y a de quoi. Nous vous dirons pourquoi à partir de 12h55. De passage à Paris, notre premier invité ce matin est l'écrivain israélien Amos Oz, poète, romancier et essayiste, cofondateur du mouvement La Paix Maintenant. Après une histoire d'amour et de ténèbres et entre amis, il publie en cette rentrée Judas aux éditions Gallimard. Heureuse de vous retrouver ce mercredi jusqu'à 1h30.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Depuis toujours passionné par la Bible et par les lieux qu'il traverse, lui, le kibboutznik, a choisi d'ancrer son nouveau roman dans la ville où Oz a grandi, le Jérusalem de 1959. Récit qui se termine au hasard d'une route poussiéreuse dans un pays encore en construction. Et des premiers bâtisseurs de l'État d'Israël, dans Juda, il est question, mais aussi d'amour contrarié, d'illusion et de trahison. Juda revient aussi sur les relations entre le judaïsme et le christianisme et sur un questionnement historico-théologique. Et si Juda était en fait le plus fidèle croyant de Jésus? Un roman où le traître n'est pas toujours celui que l'on croit, où le traître éveille surtout nos consciences. Formellement, Judas met en scène des vivants et des morts, la raison des uns contre l'engagement des autres. Le jeune Shmuel H., l'étudiant, qui a entrepris une thèse sur Judas, adhérent du cercle du renouveau socialiste. Gershom Wald, son logeur, vieil érudit à qui il doit tenir compagnie quelques heures durant entre conversation, divagation et thé fumant. Et Atalia Abravanel, femme blessée, aussi belle et dure que Ronit Elkabetz, la comédienne et réalisatrice décédée en avril dernier de prendre femme. Et puis il y a les absents dans Judas, un fils mort au combat pendant la guerre d'indépendance de 48, et le père d'Atalia, grande figure incomprise, rejetée du mouvement sioniste. La traduction de Judas a été réalisée par Sylvie Cohen, et tout au long de cet entretien, l'interprète Marguerite Lipsker sera la voix française d'Amos Oz. Bonjour à tous les deux. Judas est d'abord un roman intelligent, un plaidoyer pour le débat d'idées. Dans ce livre, Amos Oz, vous soulevez beaucoup, beaucoup de questions, mais vous n'y répondez qu'en émettant des hypothèses littéraire et politique, et par la confrontation de points de vue. Pourquoi ? Est-ce que vous n'avez vous-même aucune certitude ?
C'est le manifeste.
Ce n'est certainement pas un manifeste. Il s'agit là d'une histoire sur trois personnages, trois personnes qui relèvent de trois planètes différentes. Un homme vieux qui ne croit pratiquement en rien. une femme d'âge moyen qui est furieuse et qui est blessée, qui est furieuse contre toute la gente masculine, pour de très bonnes raisons d'ailleurs. Et un jeune idéaliste qui veut améliorer le monde, qui veut réparer le monde. Voilà trois personnages qui, en fait, n'ont rien à se dire les uns aux autres. Mais au fur et à mesure que le roman avance, ils se rapprochent. À la fin du roman, ils s'aiment pratiquement les uns les autres. Et c'est cela qui est au cœur de ce roman. Alors c'est vrai, il y a également des idées dans ce livre. C'est également un roman d'idées. Les idées appartiennent aux personnages et non le contraire.
Une des pages de votre livre, Judas, qui m'a le plus marqué, c'est justement celle où vous parlez d'amour. Dans la bouche du vieux Wald, l'amour ou la définition qui en est donnée est quand même assez pessimiste. Hein. C'est un roman d'amour, vous le dites, un roman d'apprentissage. Mais au fond, écrivez-vous, l'amour est pareil à la haine, encore plus qu'on le croit. Vous faites référence à cette phrase de Thomas Mann qui aurait dit que quelque part, la haine n'est autre que l'amour affecté du signe moins.
Oui, Wald le dit en citant Thomas Mann.
Mais
il le dit lorsqu'il est en discussion et en dispute, ou du moins en discussion avec Jésus, le
Nazaréen.
L'amour universel. Tout le monde va aimer tout le monde.
Et que ne fait-on aujourd'hui hein, au nom de l'amour universel
Mais dans ces années-là, début des années 60, fin des années 50,
make love not war, all you need is love.
Faites l'amour pas la guerre, all you need is love. Tout le monde croyait à l'amour universel.
Wald,
quant à lui, il dit, d'une part ce n'est pas possible et d'autre part ça ne vaut pas la peine. Car l'amour, ce n'est pas toujours un sentiment de douceur. L'amour, ce n'est pas une idylle pastorale. Dans l'amour, il y a des éléments d'égoïsme. Il y a des éléments d'essayer de diriger quelqu'un, de prendre le dessus sur quelqu'un. Alors, comme tout bon juif qui est en train de discuter avec un autre juif,
Wald
dit à Jésus, dis-moi, d'où est-ce que tu as sorti cela, que tout le monde va aimer tout le monde? Toi, Jésus, c'est vrai que tu as aimé tout le monde et tout le temps? Alors, et c'est vrai, il y a ce genre de discussion dans le roman. Et dans le roman, moi j'aime tout le monde. Et à vrai dire, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, avec personne, je ne suis tout à fait d'accord. Mais j'ai énormément d'empathie avec les personnages. Toutes ces discussions théologiques, idéologiques. Alors voilà, mon lecteur est invité à lire tout cela avec un sourire. En fait, l'amour, c'est un minerai extrêmement rare. Il n'y a pas suffisamment d'amour en ce monde. Et c'est vrai.
Amos Oz, il y a aussi dans Judas, votre livre qui vient de paraître en cette rentrée chez Gallimard, un style incroyable. C'est un livre qui vous a pris 5 ans, Amos Oz, et votre style est aussi fourni, riche et précis que la barbe de Shmuel. Et pour le prouver à ceux qui nous écoutent, je vais juste lire ce passage qui est assez vite au début du livre, où vous décrivez ce jeune protagoniste du livre. Il était âgé d'environ 25 ans, corpulent, barbu, timide, émotif, social. spécialiste, asthmatique, cyclothymique, les épaules massives, un cou de taureau, des doigts courts et boudinés. On aurait dit qu'il leur manquait une phalange. Des poils crépus comme de la paille de fer lui poussaient par tous les pores des joues et du cou. Sa barbe fusionnait avec sa tignasse frisée et rejoignait les boucles de sa toison. Hiver comme été, il avait l'air survolté, en sueur. De près, on était agréablement surpris de découvrir qu'il ne sentait pas l'aigre, mais une légère odeur de talc pour bébé. Il s'enflammait pour de nouvelles idées, pourvu qu'elles soient ingénieuses et renferment quelques paradoxes. Seulement, il avait tendance à s'épuiser très vite à cause d'une hypertrophie cardiaque et de son asthme. Il avait l'alarme facile, ce qui le plongeait dans la honte et l'embarras. Tous vos personnages sont campés avec la même précision à Amos Oz, et c'est un délice de vous lire.
Vous
savez, chaque traduction est un miracle. L'hébreu, le français, c'est un petit peu comme si on jouait un concert pour violon sur un piano.
Une question théologique inexpliquée, voilà de quoi il est aussi question dans ce livre, Judas. Vous nous présentez Judas, le traître ultime dans l'imaginaire de tous, sous un autre jour. Et si il était en fait le plus grand admirateur de Jésus, le premier chrétien, le dernier, l'unique? Pourquoi avoir choisi de semer le doute sur cette figure universelle et accepter comme tous de Judas comme le traître?
Le mot traître m'intéresse depuis que je suis tout petit. Lorsque j'avais 8 ans, mes amis de Jérusalem m'appelaient déjà traître. Parce que moi, j'avais fait connaissance avec un lieutenant de la police britannique. Et les Britanniques à Jérusalem, c'était les occupants. C'était ceux qui nous opprimaient.
Et
moi, j'aimais beaucoup ce lieutenant britannique qui était à la fois gros et asthmatique. Alors, je me suis souvent posé la question... C'est quoi exactement un traître? Je ne parle pas de quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui vend les secrets commerciaux. Mais il y a eu plusieurs cas dans l'histoire que quelqu'un ait été appelé traître parce qu'il était en avance sur son temps. Il y a beaucoup de grands hommes, de grands personnages de l'histoire, également des poètes ou des romanciers, des écrivains, des hommes d'État, des politiques. Et une bonne partie de leur propre public les appelait traîtres. Alors, pas toujours, mais parfois, on comprend après quelques années que le traître était celui qui était le plus fidèle.
Et
Judas, dans ce livre, c'est son cas. Et Abravanel également.
Justement, on est toujours un peu le traître de l'autre. Vous avez également dit être traité de traître est parfois un honneur à vous entendre. On comprend que la frontière entre le traître et le vigile, le lanceur d'alerte, est très ténue. Qui était à l'époque, justement, le Abravanel dans les années après la Seconde Guerre mondiale, 47-48, que vous décrivez, celle de la guerre d'indépendance? Est-ce que c'était Hannah Arendt, cette voix qui venait des États-Unis et qui critiquait le projet? Est-ce qu'il y a eu vraiment un Abravanel?
Moi-même, j'ai connu au cours de ma vie bon nombre de personnes qui ont connu des transformations, des changements, qui sont passées par des changements, et c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, notamment lorsqu'on change à un âge déjà avancé, ou adulte du moins.
Arendt.
Et d'autres également, il y a des gens plus connus encore.
Il y a Charles de Gaulle.
Il y a de Gaulle, beaucoup de Français l'appelaient traître.
Il y a Winston Churchill, Churchill
qui a en quelque sorte défait l'Empire britannique. Et beaucoup l'ont traité de traître.
Il y a Lincoln
qui a libéré les esclaves aux États-Unis.
Thomas Mann, Solzhenitsyn, Pasternak.
Thomas Mann, Pastanak, Solzhenitsyn.
Anatomia shel habgida.
L'anatomie même de la traîtrise m'intéresse.
Ba roman haze.
Dans ce roman,
הבוגד החשוב ביותר ברומן.
Le traître le plus important du roman.
זה לא יהודה.
Ce n'est pas Judas.
זה לא אברהם.
Ce n'est pas Abravanel.
זה שמואל אש.
C'est Shmuel Ash.
הוא לא אוהב את אבא שלו ולא אוהב את אמא שלו.
Ni sa mère ni son père.
והוא מוצא לו לחורף אחד אבא
חדש. Et pour un hiver, il se trouve une nouvelle mère et un nouveau père.
זאת הבגידה הגדולה.
Ça c'est la grande traîtrise.
הוא גם שוכב עם האמא החדשה שלו.
Et il couche également avec sa nouvelle mère.
אבל מי לא עושה את זה?
Mais qui ne le fait pas?
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Et si, Amos Oz, et si les voix dissidentes comme celle d'Abravanel dans votre livre avaient été écoutées, comment ça se serait passé? Est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Et si les écrivains pouvaient réécrire l'histoire, Amos Oz, est-ce que c'est ce que vous cherchez aussi un peu à faire?
Ce que vous voulez maintenant de moi, c'est être prophète.
Moi,
je viens du pays des prophètes et là, il y a beaucoup trop de concurrence. La réponse, c'est je ne sais pas. Si vous me demandez si moi j'avais voté pour Abravanel, la réponse est non. Je pense que son rêve est un rêve extraordinaire. Mais dans notre monde, c'est un rêve très dangereux.
C'était
que les gens vivent sans armes, sans État, sans gouvernement.
C'est
très joli, mais Shmuel H. lui demande à juste titre. Pourquoi les Juifs seraient les premiers à le faire? Nous, on a déjà essayé. Et ça n'a pas marché. Ça n'a rien donné de bon pour nous.
Alors maintenant, attendons
que les autres enlèvent leurs persiennes, enlèvent les serrures des portes, ou arrachent les murs.
Alors
nous aussi, on va participer avec grande joie à cette orgie. Mais on ne veut pas être les premiers. Je n'ai pas du tout écrit ce livre pour dire voter pour Abravanel, voter pour Gershonwald ou Jésus.
Non, ça j'ai bien compris, mais je me demandais si vous l'aviez aussi écrit parce que vous aviez envie d'imaginer ce qui se serait passé si on avait écouté les voix dissidentes, ces voix qui ont été marginalisées à un moment, ces traîtres. À qui vous redonnez quand même la parole aujourd'hui?
La réponse est oui, bien sûr. Je voulais participer au rêve de tous.
Alors,
est-ce que le rêve aurait eu une fin heureuse ou malheureuse? Je n'en sais rien. Est-ce que je suis sûr qu'une autre voie aurait réussi ou non? Je ne sais pas. C'est un petit peu comme dans les relations entre personnes. Un homme, une femme se rencontrent. Ils font un certain chemin ensemble. Et ils vont toujours se demander qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ce chemin avec un autre homme, avec une autre femme. Personne ne peut répondre à ce genre de questions. Mais chacun les pose ou se les pose. Comment ne pourrait-on pas se les poser d'ailleurs?
Amos Oz, dans 10 thèses sur la guerre, l'ancien ambassadeur Élie Barnavi raconte ses guerres et tente d'appréhender le sens de la guerre comme une épreuve inévitable, quel que soit le régime politique, de la guerre aussi comme acte de naissance des États et en premier lieu d'Israël. Vous avez aussi connu des guerres et vous avez témoigné et écouté le témoignage de ceux qui y ont participé. On va tout de suite entendre un extrait de Censored Voices, un documentaire auquel vous avez participé.
מסתבר שהמלחמה הייתה, אם אפשר לומר לך, צודקת, אבל זה והלאה היא הפכה לדבר שהוא איננו.
זה הרגשה שדיברנו אמת, אמת שאני עומד מאחורי האדם.
יש לי הרגשה שהמלחמה הזו חל אותם סיבוך כזה, שלנו קשה מאוד, קצת מאוד.
Documentaire réalisé par la jeune documentariste israélienne Mor Louchi, qui a retrouvé des vieux enregistrements de 1967, des témoignages de jeunes soldats de retour de la guerre des six jours que vous avez recueillis à Mossos, des confessions censurées par l'armée et pour la première fois dévoilées en intégralité dans ce film. La guerre a offert à Israël une victoire qui était territoriale et politique, décisive, et cette guerre a été présentée comme une guerre de conquête légitime. Dans Juda, à Mossos, il y a aussi cette réflexion sur le sens de la guerre et des guerres. 1948, 1956, 1967, 1973, les guerres comme moyen et leur finalité. Est-ce que vous avez réussi à répondre à cette question ? À quoi ont-elles servi ces guerres ?
Voilà le type de choses où une personne doit tout de suite répondre « je ne sais pas ». Est-ce qu'Israël va vers la catastrophe ? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que la France va vers une catastrophe ? Peut-être que oui, peut-être que non.
Mais
une chose vaut peut-être la peine d'être dite, notamment sur la différence qui existe d'une part entre Abravanel et Jésus. Et d'autre part, avec moi, le petit. Jésus et Abravanel, ce qu'il y a de pire au monde, c'est la guerre, c'est la violence.
Pour moi,
c'est l'agressivité pour moi, la chose la pire au monde. La guerre... C'est un résultat d'agressivité, de l'agressivité. Et ce qu'il y a de pire, ce n'est pas la guerre, mais c'est l'agressivité.
Et nous
savons exactement que parfois l'agressivité, il faut l'arrêter par la force. J'ai une parente... qui était dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle nous a toujours rappelé que ceux qui l'ont libéré de Theresienstadt, ce n'étaient certainement pas des manifestants qui portaient des pancartes et des feuilles d'olivier, mais c'étaient des soldats qui avaient leurs casques et leurs armes. C'est quelque chose que je me rappelle à moi-même lorsque je pense à quel point les rêves d'Abravanel ou de Jésus sont doux. J'aime beaucoup ce rêve. Est-ce que je peux y participer ? Non.
Si
quelqu'un essaye de vous attaquer violemment dans la rue, et je suis là, moi aussi, et je peux par la force empêcher cela, eh bien je vais le faire par la force. L'idée de tendre la deuxième joue, c'est une très belle idée, mais
ce
n'est pas moi.
Votre père s'imaginait sérieusement qu'il y avait le moindre espoir de survivre par des moyens pacifiques, c'est bien ce que vous essayez de me dire, qu'il était possible de convaincre les Arabes d'approuver la partition du pays, qu'il était envisageable d'obtenir une patrie par de belles paroles. Ça, c'est une des questions que pose Shmuel H, justement, dans le livre, dans Juda, Amos Oz, et qui fait qu'on pourra quand même toujours s'interroger si la guerre est le juste chemin à emprunter pour aller vers la paix. Vous êtes né à Jérusalem en 1939, vous êtes un enfant du Yishuv, de l'État, avant l'État. Vous avez vécu tous ces débats, la question des orientations, la question des choix sur la construction de l'État d'Israël. Mais si à Mossos on ne peut pas réécrire l'histoire, si on peut la raconter et qu'on ne peut l'ignorer, on ne peut pas non plus prédire l'avenir, mais on peut l'imaginer en ne considérant pas l'absence d'espoir comme irréversible. Est-ce que vous pensez qu'on a toujours le choix ? Amos Oz.
Moi, je crois au compromis, pas au happy end. Le compromis, c'est quelque chose qui fait mal. Les jeunes idéalistes n'aiment absolument pas les compromis. Ils croient que le compromis, c'est de l'opportunisme. Ils pensent que le compromis, c'est quelque chose qui n'est pas droit. Il y a du compromis à faire en ce monde. Le contraire de la guerre, ce n'est pas l'amour. Le contraire de la guerre, c'est le compromis. Également au Moyen-Orient. Également ici, chez vous. Et même entre les deux parts d'un couple, entre un homme et une femme, ou entre les parents et les enfants.
Mais les rêves ne mentent pas, hein, dit le prophète Amos sous votre plume. On sent quand même que vous n'avez pas totalement bouté le rêve hors de vous, Amos Oz. Et pour terminer effectivement sur l'actualité, vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi militant au sein du mouvement pour la paix depuis une quarantaine d'années. Vous plaidez depuis toujours pour une solution à deux États. Certains de vos amis récemment ont estimé que ils avaient perdu la partie et que seule une solution avec un État binational était possible de nos jours.
Écoutez, il est impossible de prendre les deux côtés après plus de 100 années de violence, de haine, de douleur, de souffrance, et de les mettre ensemble dans un grand lit et de dire, voilà, essayez maintenant votre lune de miel. Commencez votre lune de miel. Même en
1945,
si quelqu'un avait proposé de faire de la Pologne et de l'Allemagne un seul peuple d'un coup, ben je pense qu'on l'aurait mis direct en psychiatrie. 50 ans plus tard, bon, c'est une idée qui semble correcte. Les Israéliens et les Palestiniens, tout d'abord, ils ont besoin de deux États. Peut-être après un marché commun. Peut-être après un genre de fédération. Et peut-être plus après. Mais il est absolument impossible de faire l'amour sous la menace des fusils. C'est en fait quelque chose qui doit évoluer, ce n'est pas quelque chose de radical, de soudain.
De tous les côtés,
en Israël, et d'ailleurs pas seulement en Israël, on m'attaque, des radicaux m'attaquent. Et certains pensent également que moi je suis radical ou extrémiste. Moi, je suis pour l'évolution.
Je crois à
ce que l'on se fasse la cour. Je crois à la patience. Je crois que faire la paix, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais c'est comme lorsque l'on essaye de guérir une plaie. De traiter une plaie. Un médecin, un bon médecin,
ne
va jamais vous dire, vous prenez ce comprimé, dans 5 minutes, vous êtes guéri. Les Israéliens et les Palestiniens ont encore un chemin difficile à parcourir, un long chemin difficile. Abravanel, lui, il a un comprimé. Jésus aussi a une réponse simple. Vald aussi. Et même Shmuel au début du roman. Moi, je n'en ai pas. Et c'est la raison pour laquelle j'écris des romans. Et pour laquelle je ne suis pas député à la Knesset, par exemple.
Thank you.
on se quitte avec la symphonie numéro 7 d'Anton Bruckner que Daniel Barenboim dirigera ce vendredi 9 à la Philharmonie de Paris. Le chef d'orchestre israélien, également connu pour son action pour la paix au Proche-Orient à travers la musique et le Divan Orchestra qu'il a cofondé avec Edouard Saïd. Un grand merci à Jason Taous pour la technique, à Marguerite Lipsker pour sa traduction et à Amos Oz, bien sûr, pour sa présence très forte dans nos studios. Judas est un ouvrage qui est paru chez Gallimard.